Radio G. www.radio-g.fr.
Bonjour Simon.
Bonjour Philippe. Il nous dit, mais on ne l'entend pas en fait, il vous a dit bonjour. Bienvenue donc dans cette 22e édition de l'édition, de l'émission, l'édition de l'émission. On lit quoi nous, l'émission de toutes les littératures de jeunesse.
Toutes.
Ouais, toutes. Et d'ailleurs, pour cette émission, on va encore faire une fois le tour de toutes les littératures de jeunesse et tous les coups de cœur qui nous ont chatouillé les narines, qui nous ont éveillé les sens. Donc on a encore plein de choses à vous présenter, des albums, des romans, des documentaires, des livres pop-up, des livres CD, voilà. Donc c'est tout un beau programme qu'on a encore à vous présenter. On est ravis de vous retrouver. Et d'ailleurs, on tient aussi à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous podcaster.
C'est vrai.
Voilà, sur le grand internet.
Oh, c'est bien.
Donc ça nous fait vraiment beaucoup plaisir. Voilà, on est on the web.
Voilà.
En attendant, on va plutôt partir à la Nouvelle-Orléans et on va écouter un extrait. Comme d'habitude, on va commencer en musique avec un extrait de la voix d'Ella et on en parle tout de suite après. Bravo,
ouais,
bravo,
ouais,
Ella, bravo Bess.
Ella,
voilà.
Ella,
c'est ça. Alors, aujourd'hui, on a choisi donc pour comme disque du mois La Voix d'Ella. C'est le nouveau livre CD que publie ce magnifique groupe qui est The Amazing Keystone Big Band.
Wow.
Ouais, c'est un groupe que j'aime beaucoup. C'est eux qui avaient déjà travaillé il n'y a pas très longtemps sur Le Carnaval des Animaux. Qui avait été réécrit par Ty McLaughlin. Et donc cette fois-ci, ils vont raconter, enfin en musique, une histoire autour de Ella Fitzgerald. Donc vous savez que ce Amazing Keystone Big Band, c'est un vrai big band qui a été créé il y a quelques années par quatre amis, qui Fred Nardin, John Boutelier, Bastien Balaz et David Enko.
C'est pas tellement américain comme nom, ça.
Ah, mais ce sont que des Français.
Ah.
Et qui se connaissent depuis le conservatoire et qui avaient envie de créer comme ça, se faire plaisir avec un big band. Donc ils ont créé ce big band de jazz et depuis ça roule pour eux puisqu'ils ont, ils viennent d'ailleurs d'être récompensés par la victoire du jazz l'année dernière. Et ils ont travaillé également avec Gauthier Langros pour développer des projets musicaux. Et cette fois-ci, dans La Voix d'Ella, c'est une histoire écrite par Philippe Le Schermayer, qui est racontée par Vincent De Dienne.
Wow.
Ouais.
Ah, quand même.
Ouais. Et illustré par Amanda Minazio. Le tout fait un très très bel album qui raconte l'histoire de Bess. Bess, c'est une jeune fille qui rêve de devenir la grande Ella Fitzgerald. Et
la
puis, voilà, elle reste veut chanter. Sauf que elle est noire, elle est orpheline, elle vit dans le sud des États-Unis. Et,
c'est un peu mal barré dans un premier temps, quoi.
Bah, en tout cas, c'est beaucoup plus compliqué pour elle. Okay. Et donc, elle va quand même suivre son destin, suivre son envie, partir à New York, et on va la suivre dans, dans ses aventures. Donc c'est ce que nous raconte ce très beau La Voix d'Ella.
Et qui chante alors là ?
Eh bien, c'est une jeune femme dont je n'ai pas forcément... voilà.
C'était pas voulu, ça.
Bravo, bravo.
Non, c'était pas voulu.
Qui, ouais, qui est très très belle. Ouais. Elle chante sur tout le disque, d'ailleurs. C'est vrai que j'aurais pu...
Oui.
J'aurais pu.
Voilà, bon.
J'aurais pu. Mmh.
C'est
peut-être Celia Kamini, je ne sais pas. Mais bon, je vais rechercher ça. Ah si, voilà, c'est Celia Kamini.
D'accord.
C'est bien ça.
Celia Kamini.
Très belle voix. Et donc, on va écouter d'autres morceaux. Hein, pendant, vous savez, on a l'habitude maintenant. C'est notre disque du mois. Enfin, notre livre CD du mois. Donc cette fois-ci, je vous découvre vraiment. Je vous invite à découvrir l'univers de The Amazing Keystone Big Band, les réinterprétations qu'ils ont faites. C'est vraiment toujours très très bien. Et ça sera notre disque du mois. On commence.
La route est droite, là.
Voilà, c'est ça. Et on commence par l'actualité rature de la jeunesse.
Et oui.
Voilà, l'actualité rature de la jeunesse. Oui. Voilà.
Oui. Un jour, je vous accompagnerai. Je ne vous laisserai pas tout seul.
C'est bien, c'est gentil. Mmh. C'est gentil. Mmh. Dans cette actualité, il y a forcément, là, on est au mois de février, donc il y a le Salon de Angoulême.
Oui, voilà,
la bande dessinée. N'est-ce pas?
Oui.
Et alors, on va pas vous refaire tout
parce que
c'est pas une émission de BD non plus, mais il y a quand même une BD qui gagne le prix jeunesse. Et cette fois-ci, c'est une très belle BD qui s'appelle Le Prince et la Couturière de Jen Wang, publiée chez Aquileos. Et franchement, c'est un très beau récit, c'est un roman graphique pour les plus jeunes qui est franchement très joli. Donc, c'est l'histoire d'un prince qui cherche effectivement une fiancée. Et qui va donc découvrir une jeune femme, et entre elles va naître comme ça une petite passion. C'est vraiment une belle bande dessinée qui change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir.
Il y
a plein d'autres choses. C'est un gros pavé. Ça parle de couture, ça parle de mode, ça parle de plein de choses. Oui. Ça parle d'amour aussi un petit peu. C'est un bel ouvrage. C'est publié par Aquileos.
C'est relié ça.
Et c'est très très bien relié. Voilà.
Comme autrefois.
Exactement. Donc voilà, c'était pour faire un petit clin d'œil sur la bande dessinée. Bon, on en représentera quand même une en fin d'émission, comme on a l'habitude de faire. On aime bien les choses qui ne bougent pas trop, quand même. Voilà.
Oui.
Et puis, qui dit mois de février ?
Dit
aussi. Alors, je crois que là, on a.
De l'autre côté du monde, mais en France aussi.
Ah, des pétards. Ça, c'est. Je crois que ça, c'est Philippe qui nous a envoyé un petit son.
De l'autre côté du monde.
Ah. Je vous rassure, ce ne sera pas le disque du mois.
Pourquoi vous nous rassurez ?
C'est une autre culture musicale, mais je pense que quand vous aurez cette chanson en tête, vous ne pourrez plus vous en débarrasser.
C'est mieux que le petit bonhomme en mousse, moi. Ouais.
Pourquoi j'ai choisi cette chanson ?
Je crois avoir une petite idée.
Parce que début février, effectivement, c'est comme tous les ans.
Ça revient, comme
c'est
chez nous.
C'est ça. Ouais. C'est le nouvel an chinois qui va commencer. Et on avait envie de parler surtout d'un livre, en fait, qui est magnifique, mais aussi de cette actualité, hein, n'est-ce
pas ? Bien sûr, tout à
fait. Vous vouliez nous présenter donc...
Réunis. De Yu Li-kyung et de Zhu Chen-liang aux éditions Onfei. Magnifique maison d'édition qui réunit des littératures asiatiques.
Et occidentales, puisque bien souvent il y a
des allers-retours aussi.
Comme les deux éditeurs d'ailleurs, deux. Et...
J'ai oublié le nom de
Loïc Jacob.
Jacob, voilà, c'est ça. Et je ne sais plus le nom chinois de l'autre.
Je vais vous le trouver.
Qui fait les traductions, c'est gentil. Merci. Donc réunie, c'est cette petite fille qui va revoir son papa au bout d'un an. Son papa, elle ne le voit qu'une fois dans l'année pour le Nouvel An chinois. Et donc son papa arrive et ouais, c'est la fête, la maison est toute nettoyée de fond en comble, on se prépare aussi au Nouvel An, donc la cuisine regorge de mets plus délicieux les uns que les autres, et cette petite fille, elle a très peur parce que son papa arrive avec sa grosse barbe et elle ne l'a pas vu avec la barbe depuis très longtemps, enfin elle l'a pas vu avec la barbe, elle l'a jamais vu avec la barbe, donc une fois qu'il s'est rasé, ça va beaucoup mieux pour cette petite fille qui est enchantée, qui ne quitte pas du tout son papa, des yeux, des mains. Voilà, elle reste accrochée à lui pendant tout le temps qu'il va passer avec eux. Et on va aussi découvrir ses traditions, par exemple de faire des boulettes de riz, où le papa va glisser une petite pièce dans une des boulettes, un peu comme chez nous pour la fève. Et la personne qui va trouver cette boulette aura de la chance toute l'année. Et il se trouve que la petite fille a trouvé la boulette. Elle entend aussi, alors je suppose que ça se passe en Chine, parce qu'il y a une belle scène où le papa et la petite fille se trouvent sur le toit. Le papa va réparer, en plus il en profite, il est là qu'une fois dans l'année. Ça pourrait paraître tragique un peu, enfin pas tragique mais très triste. Et c'est plutôt joyeux quand même, avec une condition très réelle de ces hommes chinois qui s'expatrient un maximum pour faire vivre leur famille et qui ne reviennent qu'une fois dans l'année. Et donc là, cette petite fille va accompagner son papa sur le toit de la maison. On voit ces toits plats où ils vont découvrir la danse du dragon pour le nouvel an chinois. Ils vont aller rejoindre les fêtards dans la rue, faire péter des pétards. Et puis cette petite fille, elle a perdu en allant se coucher, elle a perdu la petite pièce, et c'est terrible, c'est le gros drame, et on peut comprendre ce drame. Cette pièce est très symbolique. Elle finit par la retrouver et elle s'endort. Elle s'endort profondément, elle passe une nuit de sommeil magnifique pour voir au matin la maman qui fait la valise du papa, qui va repartir pour un an. Et en même temps, cette petite fille va voir son papa, elle lui donne la pièce, sa pièce qu'elle avait trouvée, et elle lui demande de l'emporter avec lui pour lui ramener dans un an. Voilà. C'est évidemment, nous on a quand même peu l'habitude de ce genre de séparation aussi longue, aussi dure, c'est plein de tendresse et c'est plein de couleurs de la Chine, je trouve. On est en direct, on fête le nouvel an avec eux.
Il n'y a pas tant que ça, en fait, de livres qui se passent
sur en Chine.
Ouais, Chine contemporaine, je veux dire. Qui sont pas du conte.
Un petit peu occidentalisés, mais avec leur tradition quand même de fête et de symboles. Oui, tout à fait. Alors ce livre est d'une couleur rouge dominante qui
est la couleur dominante du coup.
Écarquille les yeux, voilà. Et avec des illustrations très chatoyantes, très belles. Et c'est un pur bonheur de tendresse, de texte aussi. Le texte est très beau. Donc vous avez retrouvé le nom
du l'éditeur. Donc les deux éditeurs, c'est Loïc Jacob et Chung Yang Hei.
C'est ça. Je les ai rencontrés tous les deux il y a 15 jours. C'est magnifique de les écouter parler, ce mélange des cultures. Justement, Ong Fei, ça signifie grand oiseau en vol. Ils avaient expliqué ça en chinois. Donc le mot est emprunté à un poème chinois. La vie est comparée à un grand oiseau qui laisse des traces sur la neige qu'il survole sans s'y attacher. Et l'éditeur a bien précisé que c'était l'orientation de cette maison d'édition, de laisser des traces pour sensibiliser ceux qui n'ont pas l'habitude de cette culture. Juste ces traces-là à prendre, et elles sont magnifiques.
Et ils ont élargi en plus du coup aussi à la culture un peu asiatique, parce qu'il y a des beaux livres sur le Japon, sur la Corée, voilà.
Oui, tout à fait.
D'ailleurs, le Nouvel An chinois, si je ne me trompe pas, il se fête dans beaucoup de pays asiatiques.
Il faut que je demande aux spécialistes, parce que là, moi, je ne connais pas. Oui, en effet. Le Nouvel An chinois se fête en Corée.
En Japon. Il me semble. Hein.
Ouais.
Bon, on vérifiera, puis on vous redira
ça. Le fête en France aussi.
Mais puis nous, on le fête aussi, voilà, il n'y a pas de raison. Donc nous, on va faire des pétards.
Oui, vous aimez bien les pétards, monsieur.
Oui, j'aime bien les pétards.
D'accord.
C'est vrai. On continue. Hein. Qu'est-ce que vous avez dans votre besace? J'ai vu que vous avez sorti votre grande besace. Oh, quelqu'un qu'on connaît, dis donc.
Ben oui. Et de Dieu qui se cache, mais qu'on trouve facilement là.
Est-ce qu'on peut dire que c'est une petite sélection pour rire, mais pas que?
Mais pas que, parce qu'on est sur du doc, polar.
Enquête chez les hérissons?
Enquête de la fourmi, parce que c'est un personnage qui s'appelle. C'est la fourmi numéro 7707. Une petite référence lointaine à quelqu'un qu'on connaît.
Toum, toum,
et donc elle est assistée.
Toum, 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 toum.
Ah, moi j'aurais pas dit ça.
Ah bon?
Si.
Je sais pas.
Oh bon, faudrait retrouver. Hein.
C'est pas la fourmi 007? Non. D'accord.
D'accord, ok, on va retrouver. Donc elle est assistée par Cruchot. Enfin, Cruchode, je sais pas comment on dit vraiment, parce qu'il y a un D à la fin. L'escargot, donc qui est son capitaine, son commandant,
son assistant.
Son assistant, qui me rappelle aussi une espèce de petit bonhomme agité de nos dimanches soirs à Saint-Tropez. Je crois que c'était son nom. Donc il se trouve que là, il y a une enquête à mener. Livre rouge aussi, hein, sans doute hommage au Nouvel An chinois. la fine équipe. Hein. Donc là, c'est le mari de l'amante religieuse qui a disparu.
C'est le titre du premier
album. C'est le titre du premier album. Nous sommes chez Saltimbanque. Et la fourmi qui profite tranquillement de son jour de repos, et l'escargot cruchot arrive en disant 7707, désolé de te déranger, mais une nouvelle affaire nous attend. Alors, la fourmi elle râle un peu quand même, mais il faut aller très très vite parce qu'il se trouve que l'amante religieuse que je viens de croiser est désespérée. Son mari est parti hier à la chasse, il n'est pas rentré. Donc la fourmi et Cruchot vont interroger les voisins, un papillon, enfin voilà. Et donc au bout d'un moment, personne n'a vu le mari. Enfin la dernière fois qu'on a vu le mari, il était avec la mante religieuse. Donc il y a quelque chose là. Au fur et à mesure de, je me suis rappelé de petits indices comme ça. Et j'ai besoin, dit la fourmi à la mante religieuse. J'ai besoin de savoir quand précisément vous avez vu votre mari pour la dernière fois. Et donc la mante religieuse répond, c'est un peu gênant, répondit la femelle mante. Nous étions très amoureux et nous avons passé la soirée à nous faire des câlins. Je vois. Est-ce qu'il a l'habitude de s'absenter si longtemps? Jamais. Donc ils continuent à faire leurs recherches, à faire l'investigation. Et à un moment, ils commencent à quand même avoir un petit doute. Et ils décident d'aller examiner les restes du repas de la mante religieuse. Oula, ça pue d'ailleurs. Ils ont tout, ils ont été voir un petit peu les excréments, et carrément. Et ils tombent sur une aile non digérée. Voilà. Quand la mante disait qu'elle aimait son mari, j'étais loin de me douter qu'elle l'aimait en sauce. Voilà. Sauf que une simple double page à la fin, très belle, très claire, avec un magnifique dessin, comme on va trouver dans les encyclopédies, ou une planche de la mante religieuse, justement, et une petite explication. Il arrive, apparemment c'est pas toujours, que la femelle de la mante religieuse, quand elle a faim, s'attaque au mâle, plus petit qu'elle, pour le dévorer. On dit qu'elle est cannibale.
C'est pas très sympa, hein.
Mais c'est la nature, monsieur
oui,
Simon.
Oui, mais c'est pas très, très sympa.
Et en même temps, l'enquête a abouti.
Merci, fourmi si 7707.
Voilà, c'est ça.
Et donc c'est une série, puisqu'il y a deux tomes qui
voilà,
sont sortis.
J'ai lu aussi le deuxième tome, qui a craché sur la maison du hérisson. Et donc 7707 et Cruchot enquêtent sur ces espèces d'amas de bave qu'il y a un peu partout dans la nature. Et ils vont s'apercevoir que cette bave, il s'agit d'un insecte. Alors là, j'ai appris quelque chose. Autant j'étais au courant pour la menthe, mais là, il s'agit d'un cercope, qui est un petit insecte cousin de la cigale, pour se cacher des oiseaux qui veulent le manger. Sa larve s'enveloppe de sa propre salive. Cette bave est appelée abusivement le crachat du coucou.
Voilà. Et là, on voit donc le
petit animal qui va s'entourer de bave s'il est attaqué.
Très bien.
Voilà.
Donc c'est pour les petits, mais pas que. C'est pour rire, mais pas que. C'est du polar, mais pas que.
Mais pas que. C'est du de Dieu.
Bon, c'est
ça, c'est sûr.
C'est du Thierry de Dieu, quoi, en fait. C'est ça, en fait.
C'est certain.
On est vraiment dans ces albums qu'il aime faire, en fait, jouer avec les genres, avec les styles.
Aussi avec ce, il a quand même une petite prédilection pour la nature et pour les insectes, pour les animaux. Avec
Tatsunogata, ouais, c'est ça. Tatsunagata. Et c'est un peu dans le type de dessin, il est plus proche de son travail qu'il fait en noir et blanc pour les tout petits, que les Yakuba et tout ça. C'est direct, plus brut.
Oui, c'est ça.
Voilà. Bon, bah, très bien. Tiens, moi je vais en profiter, je vais vous parler aussi d'un petit album. On va faire une petite séquence un peu album pour réfléchir, parce qu'on a fini sur le paquet. Et je vais vous présenter un très beau livre. C'est un tout petit livre, par contre. Ça s'appelle « Étrange créature » de Cristobal León et Cristina Citia Rubio. Et c'est publié aux éditions Notary. Vous savez qu'on aime bien les éditions Notary.
Il a été grand, l'album, à un moment.
Je sais pas, mais il est tout petit, là.
Il a été grand, moi, je suis sûre qu'il a été grand.
Mais là, il est tout petit.
D'accord, ok.
Il est tout mignon, c'est tout petit.
On l'a peut-être lavé.
Non, effectivement, il avait été publié en 2013 en format classique, format album. Ils ont eu la bonne idée, moi je trouve que c'est une bonne idée, de le sortir en tout petit. Mais tout petit, ça veut dire que ça fait, ça rentre dans une poche, quoi.
Ben c'est ça.
C'est plus petit qu'un livre de poche.
C'est ça.
Et ce livre, moi je l'avais déjà beaucoup aimé quand il était sorti en grand. Et ben je crois que je l'aime encore plus quand il est en tout petit. On va raconter donc l'histoire d'animaux qui vivent dans une forêt. J'aime les forêts. Et il y a tout type d'animaux. Il y a des renards, des ours, des biches, des oiseaux, des lapins qui vivent dans cette forêt. Donc la première double page, il n'y a pas de texte, hein, quasiment. C'est un livre qui n'est pas muet, mais il y a quand même très peu de texte. Et on voit donc cette forêt avec tous ces animaux. C'était un été ennuyeux. Jusqu'au moment où nous sommes tombés sur une mystérieuse annonce. Alors on voit tous les animaux qui s'approchent et ils voient fête. Il y a un panneau avec marqué fête. Et un chapeau et des... Donc ils vont faire la fête. Alors, nous avons dansé la cumbia, la salsa et le cha-cha-cha. Nous avons mangé beaucoup de gâteaux au chocolat. Beaucoup trop. Alors, on voit tous les ours là, qui sont...
Le donnant.
Bah, ils sont en train de s'endormir les uns sur les autres. Ils ont peut-être bu en plus un coup de trop. Quand nous sommes rentrés chez nous, nous ne pûmes en croire nos yeux.
Nous ne pûmes que c'est beau.
C'est beau. Nos maisons avaient disparu, il ne restait que leurs squelettes. Et là, on voit les animaux qui sont devant une forêt dévastée. Tous les troncs sont coupés. Tous les arbres sont tombés. Et tous les animaux sont un peu désespérés. Comment allions-nous nous protéger de la pluie, du soleil? Que mangerions-nous? Un jour, nous avons trouvé une montagne avec toutes sortes de choses. C'est une décharge, en fait. Que nous avons utilisée pour construire de nouvelles resplendissantes maisons. Mais quelque chose n'allait pas. Les maisons tombaient avec le vent ou ne nous donnaient aucun fruit. Ainsi, nous sommes mis à la recherche de nos anciennes maisons. Et nous les avons trouvées, mais coupées en morceaux. Nous avons essayé de parler avec les étranges créatures qui avaient fait ça. Mais elles étaient très féroces. Là, on voit l'ours qui se fait jeter par un homme. Ce fut plus facile de communiquer avec les petits gardiens de ces créatures, les animaux domestiques. Ils nous aidèrent à imaginer un plan. Le plan fonctionnait à la perfection. Les étranges créatures aussi aimaient danser. Donc ils font une fête dans la forêt. Tous les humains s'y précipitent. Nous fûmes rapides et silencieux. Et quand elles rentrèrent de la fête, les créatures ne trouvèrent plus leur maison. Seulement les traces que nous leur avions laissées. Et ainsi, elles arrivèrent jusque nous. Ce fut difficile de leur expliquer que ce qu'elles avaient volé, c'était nos maisons. Et que nous en avions besoin. Mais maintenant, elles ont compris. Et la double page finale, ce sont les humains et les animaux qui sont en train de replanter tous les arbres.
Super.
Très belle fable.
J'ai l'impression d'avoir un morceau de forêt dans la main.
Petit conte. Oui, c'est ça. Mais le fait que ce soit tout petit, je trouve que ça donne un côté encore plus intime à cette histoire, qui la rend encore plus belle.
Notary Italie ou Suisse?
Alors, Suisse, Notary. Suisse, ouais. Et c'est eux qui avaient notamment publié Cœur de Bois, Les Aventures de Monsieur Wilson aussi, de Thomas Cotto. Voilà. Oui. Donc, ils ont tout un travail d'édition et de réédition qui sont vraiment de qualité. Ils publient peu, mais toujours très bien. Et ça, c'est un livre que j'avais adoré, qui est dessiné par Cristina Citrin Rubio, qui est une vénézuélienne.
Voilà, ah, partie oui, je de... crois qu'on en avait déjà parlé.
Elle a publié pas mal de fois, hein, déjà. Bon, maintenant, elle vit, je crois qu'elle vit à Berlin. Mais en tout cas, elle a publié beaucoup aux États-Unis, en Allemagne, en France, en Espagne. Donc, ça fait partie des grands noms, en fait, de l'illustration sud-américaine. Voilà. Donc, c'était mon petit coup de cœur pour réfléchir un petit peu.
C'est un petit coup de cœur lumineux.
Ouais, très beau. Vous aussi, vous en avez un?
Oui. Enfin, j'ai plein de coups de cœur. Mais là, celui-là, oui. Là, alors, surtout, oui, c'est Agnès de Lestrade, donc ça s'appelle La fileuse de brume. La fileuse de brume. Vous avez bien entendu. Agnès de Lestrade. C'est ma copine.
Elle revient assez régulièrement, j'ai l'impression, Agnès de Lestrade, dans vos choix.
Quelle plume, quel texte. Ça m'emporte complètement. Et pour les dessins, Valeria D'Ocampo, qui est totalement à la hauteur du texte. Puisque quand je prends ce livre, j'ai l'impression d'entrer dans de la soie, dans de la toile d'araignée, mais très belle. Et il s'agit d'une petite fille qui, chaque matin, quand elle se réveille, elle se met au bord de l'eau, au bord de la mer, au bord du fleuve. C'est un fleuve. Elle s'appelle Rose, cette petite fille. Et elle capture de la brume dans son filet à papillons. Et une fois qu'elle a assez de brume, elle se met à la tisser. Et elle rentre chez elle, donc elle la tisse. Et elle a des clients. Donc je vais vous lire juste la page des clients qui vont lui commander, lui faire des commandes de type de tissu avec la brume. Donc je voudrais un tissu pour poser sur mon miroir, dit Faye. Je ne veux plus voir mes rides. Rose, vends-moi un paravent. Je ne veux plus voir mes parents, dit Isor. J'ai beaucoup trop de dettes. Je vais les cacher sous une de tes tentures, dit Angelo. Bientôt, le pays de Rose est recouvert d'un voile opaque. Donc ces personnes viennent lui prendre des brumes, toujours pour cacher quelque chose, dissimuler, peut-être oublier et tout. Elle aussi, elle s'entoure de brumes pour oublier eh bien que son papa est parti il y a très longtemps, suite à une grosse dispute avec sa maman. Ils sont séparés et elle en a souffert énormément, c'est une blessure terrible. Et depuis, elle vit dans cette brume qui lui permet peut-être de moins souffrir, de s'entourer, de s'anesthésier comme ça. Et sauf que son papa, elle reçoit un courrier. Son papa va venir la voir. Et là, le livre change de couleur. On arrive vers... elle enlève toutes ces rideaux de brume, tous ces voiles qui est opaque, qui empêchent la lumière. Et la lumière arrive, le soleil rentre en même temps que son papa et la serre dans ses bras. Et donc elle va... elle lui avait tissé aussi une couverture avec des rayons du soleil. Et elle lui l'offre et ils vont s'enfouir dessous, ils vont se retrouver. C'est très très beau, c'est absolument magnifique. Le livre lui-même est un livre, est un objet où la brume est représentée.
C'est les calques, c'est ça?
Il y a des calques et il y a des calques des traits très fins.
En fait, c'est dessiné sur les calques,
voilà,
imprimé
le texte,
sur les calques.
On le voit à travers les calques et on a vraiment... on a vraiment un livre de brume. Il y a la brume et il y a le soleil dans ce livre. Le vrai, hein. C'est vrai.
C'est super.
C'est un... Je sais pas, c'est absolument unique. On est chez Alice.
Éditeur belge.
Voilà, éditeur belge. Avec cette collection où il y a beaucoup de titres maintenant, histoires comme ça, qui sont toutes très très différentes. Mais j'aime... Alors, très souvent, je me suis arrêtée sur les histoires. Mais celle-là, je l'ai depuis longtemps, puis je me la gardais, donc je me suis dit, il faut que je vous en parle, absolument.
Mais vous avez bien fait.
Et oui.
Et nous vous remercions vraiment, Véronique, de nous avoir fait partager ce coup de cœur.
Allez le voir, allez voir ce livre.
Donc, La Filleuse de Brume, d'Agnès de Lestrade et Valeria D'Ocampo, dans la collection Histoire comme ça, chez Alice. Et, waouh, qu'est-ce que j'entends? J'entends au loin une certaine musique, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Je ne sais pas. Ah, mais c'est le cirque.
Eh oui.
Eh oui, chers amis, nous sommes très ravis
voilà
de vous
revenu.
Avoir parmi nous sous le chapiteau. Mais je vois que vous avez amené votre chapiteau.
Eh ben oui, un livre chapiteau.
Oh, je crois qu'on va couper parce que cette musique, elle est quand même assez insupportable. J'aimerais savoir pourquoi, dans l'histoire du cirque, quand même, à peu près 8 musiques sur 10 sont insupportables quand même.
Parce qu'on les a beaucoup entendues aussi.
Oui, certes, mais je ne suis pas sûr que ce soit un bon argument.
Un petit peu envahissante, on va dire.
Bah,
un petit peu lourde. Voilà.
Ah, quand même. Hein. Parce que, non, mais après, parce que pour essayer de trouver cet extrait, donc j'ai été donc sur Internet, j'ai mis musique de cirque, et je peux vous dire que de la musique pas bonne, il y en a. Hein.
Oui, mais il y a aussi le film de Fellini, j'ai plus le titre là du tout, qui est magnifique.
J'aurais dû aller chercher musique de film de Fellini qui fait
comment,
du cirque.
Comment ça peut-tu
Non, il y a des très belles musiques, Théâtre du Soleil fait des belles musiques, oui, des belles compositions. Oui. Mais comme ça faisait pas cirque, du coup, je l'ai pas prise.
Je retrouverai pendant voilà. que vous parlerez.
Mais bon. En tout cas, vous avez un très beau livre de cirque.
Et oui, c'est Famille Acrobate d'Anouk Bois-Robert et Louis Rigaud. Louis Rigaud, pourquoi je dis Louis?
Vous aviez envie, parce que c'est Louis.
Louis, ouais. Louis Rigaud, c'est plus ça.
Donc Louis Rigaud.
Louis Rigaud, on est chez Helium. Et voilà, c'est. Bon, alors, on aurait dit que c'était un pop-up. Alors, maintenant, j'en arrive. Je suis quelqu'un de très très difficile, donc je me dis oh encore un pop-up. Là, là, là.
Oh mais non, pas quand c'est Bois-Robert.
Ben non, ben non, mais j'avais non, pas vu. Je le vois épais comme ça. Je me dis oh encore un pop-up tout ça.
Et après, et vous voyez les auteurs.
Les auteurs. Moi, je l'ouvre avant de regarder les auteurs en général. Et alors là, c'est un vrai régal parce que dans ce livre chapiteau, les deux auteurs vous offrent un spectacle, un numéro d'acrobate, un vrai, hein, mais vraiment un vrai. Et mes chers amis, sous notre chapiteau ce soir, en exclusivité mondiale, voici notre inimitable, fantastique, inoubliable famille acrobate. Alors, ce qui est très drôle, ce qui est très drôle, c'est que il y a le spectacle, hein, avec, je vais vous l'expliquer. Et puis sur le côté droit, il y a des petites têtes qui s'attirent tout le temps avec ces acrobates qui attendent de passer en scène et un petit peu leur stress et tout. Vraiment, c'est... Alors, il y a le prêt, prête. Le public est déjà là. Je n'ai pas encore enfilé mon costume. À la une, Madame Prune. Dans son beau costume, les biceps en demi-lune et un cœur gros comme ça. Prêt, Robert? Attends, j'ai perdu mes lunettes. À la 2, à la 3, tête en l'air, tête en bas, voici Jeannette et Robert. Une galipette par-ci et peut-être par-là. Les voilà en place. Luca, mais où est Luca ? Je suis là, j'ai peur d'y aller. À la 4, voici Luca. Allez, t'en fais pas mon Luca. Une roue d'une main, puis une autre et tu seras le roi. Oula, oulala, oulaloulou, ça va être à nous. 5, 6, 7, 8, c'est la bande des 4 zigotos. Ne vous déconcentrez pas, vous allez tomber. Mais qu'est-ce qu'ils sont rigolos. Regarde, ils gigotent. Regarde, ils grimacent. À la 9, à la 10, d'un saut, ils atterrissent tout en haut. C'est Alex et Alix, 10, ils sont 10. Le compte est bon. Psst, mistinguette, non. Non, non, patatras, le chat est arrivé, a fait tout tomber, mais le chat, c'est le plus fort du monde. Bravo, bravo, cher public, quel numéro étourdissant. Un tonnerre d'applaudissements pour la famille Acrobate et Mistinguette, le chat le plus costaud de la planète. Ouais, tatatras.